Antoine Michel.
Aux États-Unis, le FBI ouvre une enquête pour une attaque terroriste ciblée dans le Colorado. Hier, la police de la ville de Boulder a fait état de plusieurs victimes sans plus de détails, selon des médias locaux qui citent des témoins. Un homme aurait lancé ce qui semblait être un cocktail Molotov sur des manifestants. Ceux-ci participaient à une marche en soutien aux otages israéliens retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Et à Paris, des tags hostiles à Israël ont été découverts hier sur un mur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Dans la nuit de vendredi à samedi, le mémorial de la Shoah, trois synagogues et un restaurant de la capitale française avaient été aspergés de peinture verte. Des déprédations qui avaient suscité une vague d'indignation. Ce téléphone hier entre le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et son homologue américain Marco Rubio. Selon Moscou, les deux responsables ont notamment évoqué le nouveau cycle de pourparlers avec l'Ukraine qui doit débuter dans quelques heures à Istanbul. Hier, l'Ukraine a mené une vaste attaque contre des aérodromes militaires en Russie jusqu'en Sibérie. Les Ukrainiens ont relâché des drones cachés dans des conteneurs placés non loin des bases aériennes. Le ministère russe de la Défense a confirmé que plusieurs appareils avaient pris feu. On attend toujours les résultats définitifs de l'élection présidentielle en Pologne. Il devrait arriver ce lundi. Le deuxième tour a vu s'affronter le maire pro-européen de Varsovie, Rafał Trzaskowski, et le nationaliste Karol Nawrocki. Les deux candidats sont au coude à coude selon un sondage à la sortie des urnes. Les footballeurs du FC Bienne fêtaient en héros hier soir dans leur ville. Les Zélandais n'ont pas démérité en finale de Coupe de Suisse face au puissant FC Bâle. Le club de 3e division a certes perdu 4-1, mais il a réussi à donner du fil à retordre aux champions de Suisse pendant 75 minutes. Autre scène de liesse à Paris, les joueurs du Paris Saint-Germain ont défilé sur les Champs-Élysées avec le trophée de la Ligue des Champions remporté la veille à Munich contre l'Inter Milan. Puis les joueurs se sont rendus dans le rentre du Parc des Princes pour présenter à leurs fans en délire la fameuse coupe aux grandes oreilles, la première de leur histoire. Un traité de paix insolite entre Suisses et Français, signé hier à Saint-Gingolph. Il prône l'unification des amoureux de la raclette et de la raclenette. 600 convives ont pris part à un festin mettant à l'honneur les produits du terroir sur des tables disposées le long du pont reliant les deux parties du village franco-valaisan. Des orages et des averses au programme cette nuit et en journée avec beaucoup de nuages. Il fera entre 16 et 21 degrés. Mardi, retour partiel du soleil, mais toujours un risque d'averses et d'orages.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Elle raconte les bombes, l'exil, l'attente, parfois l'espoir et la peur. Depuis Gaza, par messages vocaux, Naed partage son quotidien à Adel, en Suisse.
Il faut s'habituer à vivre cette vie, avec de la guerre, avec de la peur.
Un témoignage rare, sensible et documenté. Naed, une voix de Gaza, un podcast RTS inédit. 4 épisodes pour comprendre cette guerre de l'intérieur. Disponible dès maintenant sur l'application Play RTS.
RTS Première, comme une lueur dans la nuit.
Extrait du livre de notre invitée, la philosophe Olivia Gazalé, Le paradoxe du rire, aux éditions Segers. Si la proposition « le rire est le propre de l'homme » est fausse tant que l'on donne au mot « homme » le sens d'être humain, elle devient vraie si on lui confère celui d'individu de sexe masculin. La langue française ayant, par une métonymie très significative, donné le même nom « d'homme » à la partie et au tout, et condamné la femme à n'être qu'une minorité presque accidentelle de ce même tout. Dans la lente construction des sexes échafaudés par la culture patriarcale au cours des siècles, le rire est bel et bien le propre de l'homme, au sens masculin du terme. Ce sont les hommes qui rient et qui font rire.
Question genre, Christine Gonzalez.
Ceci est une rediffusion. Olivia Gazalé, bonjour.
Bonjour Christine Gonzalez.
Le rire était longtemps un privilège masculin. Ça remonterait à l'Iliade.
Oui, alors il faut distinguer, je crois, faire rire et rire. Et les deux étaient des privilèges masculins, longtemps. Le faire rire, oui, alors on peut remonter à l'Iliade, effectivement, où on a ces rires d'hommes qui sont souvent le rire du guerrier, c'est le rire de triomphe, c'est un rire très cruel, c'est un rire de moquerie qui humilie une deuxième fois le vaincu.
C'est un rire de domination, c'est ça?
C'est un rire de domination, c'est un rire plutôt, on va dire plutôt sarcastique, c'est-à-dire dans le sarcasme, il y a une dimension de violence, de mépris, voire de haine envers la personne dont on rit, envers la cible du rire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la tragédie grecque. Ce sont aussi les hommes qui rient, dans la morale chevaleresque aussi, ce sont les hommes qui rient. Mais il y a aussi, dans le fait de faire rire, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que qu'est-ce qui fait rire, qu'est-ce qui déclenche l'hilarité, au fond, quel est le ressort du comique, c'est en général la transgression d'une norme, qu'elle soit une norme de comportement, une norme de bienséance, une norme de politesse, une norme du langage, une norme de la logique. Or, la transgression des normes, ça a toujours été un privilège viril. Les femmes ne sont pas autorisées à transgresser les normes. Les femmes doivent, plus que toute autre créature, se soumettre aux normes. Et en plus, elles sont réputées, justement, vous parliez de l'Iliade, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Iliade, on voit que le logos, c'est quelque chose qui est l'apanage de l'homme, c'est-à-dire maîtriser les codes du verbe et du raisonnement et de la rationalité. Or, on ne peut pas introduire de la discontinuité ou de la transgression quand on ne maîtrise pas le logos. Or, les femmes ne le maîtrisent pas. Donc, les femmes ne sont pas rationnelles. Donc, elles ne peuvent pas introduire de l'irrationalité ou de l'inconvenance dans leur discours. Ça, c'est pour le faire rire. Maintenant, est-ce que vous voulez que je vous parle maintenant de pourquoi les femmes n'avaient pas le droit de rire?
On
aussi,
y viendra.
Pourquoi c'était aussi un privilège?
Voilà. Bien sûr qu'on y viendra. Ce qui m'intéresse là, c'est aussi cette question donc de domination, de triomphe. C'est pour ça que les humoristes aujourd'hui encore sont la cible de pas mal d'attaques politiques. Quoi. C'est on sent que l'humour détient un pouvoir.
Ah ben oui, il y a un pouvoir. En fait, on dit souvent, quand on dit c'est juste pour rire, ça n'est que de l'humour, mais en réalité, c'est comme si l'humour, le rire, c'est quelque chose de très significatif. C'est loin d'être anecdotique. Ça a une fonction politique majeure. Ça a toujours eu l'humour a en soi une forme de subversion. Enfin, c'est une subversion. On l'a dit. Donc, il peut y avoir une dimension politique. Donc, dans la satire, notamment, quand on va s'attaquer aux puissants, dénoncer. Donc, il y a une dimension très
contre-pouvoir
agressive. Ouais. Oui, absolument. C'est exactement. C'est un contre-pouvoir très puissant.
Dans l'histoire, rire, c'est comme boire et fumer. J'ai appris en vous lisant, quoi. C'est une affaire d'homme. La servante est, avec la courtisane et la prostituée, la seule femme à pouvoir intégrer les lieux masculins, comme la taverne, le cabaret, etc. Et c'était bien d'y montrer justement sa virilité. Vous avez lâché ce mot aussi, virilité, avant.
Oui, bah déjà, ne serait-ce que le mot blague, c'était la petite poche à tabac qu'avaient les hommes, et en fait, comme une blague, cette poche, elle se gonflait, elle se dégonflait avec le tabac qu'on mettait ou qu'on fumait, comme une blague, en fait, en quelque sorte, une blague, ça monte, et puis, au moment du dénouement, ça se dégonfle, et donc ça vient de là, blague, donc on voit la connotation directement virile, et effectivement, chez les femmes, vous parlez des soubrettes et des grisettes, et en gros, ce qu'on appelait autrefois les femmes du peuple, les servantes, et elles étaient autorisées à rire justement parce que elles n'étaient pas tenues comme les femmes dites de la bonne société à la pudeur, à la réserve, à tout ce qui faisait qu'une femme bien élevée effectivement ne devait pas verser dans l'hilarité. Et là, il y avait essentiellement si vous voulez, il y a trois dimensions, il y a trois qualités féminines ou essentialisées comme féminines ou naturalisées comme féminines que le rire transgresse. C'est-à-dire qu'en fait, rire, ça va d'abord offenser la beauté de la femme. Un visage qui rit, c'est un visage qui se déforme, qui se défigure. Surtout quand on montre les dents, là, c'est comble de l'obscénité. Il y avait une connotation sexuelle dans les dents, donc il fallait surtout pas... Enfin, la femme, si elle riait, si d'aventure elle riait, il fallait surtout pas que... Enfin, il fallait que ce soit bouche close, hein, surtout pas montrer ses dents. Donc, il y a une raison esthétique, il y a une raison morale. Donc, le rire offense la morale. Et là, il faut rappeler, sans vouloir être trop long, que le rire a toujours été rattaché dans la chrétienté au diable. Jésus ne rit pas, mais en revanche, on s'est moqué de Jésus, on s'est moqué de ses disciples, et donc très vite, l'Église va rattacher le rire au péché, au stupre, à la luxure, à la dépravation. Donc c'est, comme vous le disiez, ce sont les sorcières qui rient ou les femmes qui ne sont pas dites convenables. Et on arrive au troisième point, qui est que le rire offense la bienséance. Donc, c'est le « ça ne se fait pas ». Non seulement c'est immoral, mais ça ne se fait pas parce que souvent, on va dire que le rire est obscène. On rit souvent de la vulgarité, de la transgression des normes de la pudeur. Donc en fait, si vous faites une grosse blague sexuelle ou scatologique, eh bien une femme convenable ne va pas rire parce qu'elle devrait faire semblant à la limite de ne pas l'avoir comprise. Vous voyez, donc c'est pour toutes ces raisons qui sont à la fois esthétiques, morales et sociales que la femme bien, dite bien, ne doit pas rire, encore moins faire rire.
Ça veut dire que les blagues étaient faites par les hommes pour les hommes ?
Alors, justement, les femmes sont... Oui, c'est-à-dire que les femmes sont l'objet du rire, mais pas le sujet. C'est-à-dire que on peut rire des femmes, et c'est même, j'allais dire, un des grands axes de d'hilarité, un des grands sujets d'hilarité depuis toujours des hommes, surtout quand ils ont bu, c'est les femmes. Donc les femmes sont objets de moquerie, donc évidemment les femmes qui se moquent, qui rient à une blague sexiste, bon elles le font aussi volontiers, mais enfin disons qu'elles en sont la cible, donc forcément ça va plus faire rire les hommes que les femmes.
On attendait des femmes qu'elles ne rient pas, mais qu'elles sourient, c'est ça ?
Alors oui, ça c'est intéressant ce que vous soulevez, parce qu'il y a une hiérarchie très claire dans la construction du rire, parce que il y a cette idée que le sourire, c'est le sub-risus, c'est rire en dessous, c'est à la limite un rire intériorisé, mais il y a une connotation beaucoup plus spirituelle dans le sourire. Si vous voyez Marie, par exemple, la Vierge Marie ne rit pas, mais elle a un sourire en direction de son enfant, et on va considérer que le sourire, il vient de l'âme, il est lié à la spiritualité. Il y a quelque chose de sublime dans le sourire, parce que c'est un peu la trace du divin qui fait légèrement bouger la lèvre et légèrement bouger l'œil, mais surtout pas des fusions, parce que l'effusion est vulgaire. Alors justement, le rire, lui, il est rattaché à la bestialité, à la corporéité. Il enracine le rieur ou la rieuse dans quelque chose d'organique et de grossier. Donc c'est l'exact opposé du sourire, en fait. C'est ils sont antinomiques. Donc la femme peut sourire, éventuellement, bouche close évidemment, mais rire à gorge déployée, ça c'est vraiment quelque chose de beaucoup trop vulgaire et malséant pour une femme.
Je vous cite, celles qui rient à gorge déployée ne sont autres que les putains, désordre du corps, et les folles, désordre de l'esprit, deux catégories qui se rejoignent dans la figure de la sorcière.
Exactement. Mais d'ailleurs, la sorcière, elle ricane tout le temps, mais la sorcière, elle est habitée par le diable. Et donc, on parle de rire satanique, de rire du diable. C'est vraiment toutes ces expressions, elles sont vraiment révélatrices de cette connotation très pécheresse liée au rire, et surtout au rire féminin. Donc, comme vous le dites, l'hystérique, elle rit, la folle, elle rit, la prostituée, elle rit. Mais la femme bien, elle ne rit pas.
Au XIXe siècle, elles ne pouvaient pas assister à une comédie, les femmes.
Oui, alors elles ont trouvé un subterfuge. Elles avaient le droit d'y assister, mais dans les loges, au perché, les loges qui leur étaient réservées, et surtout cachées derrière leur éventail. Ça ne se faisait pas. Mais pendant des siècles, il faut rappeler qu'elles n'étaient même pas autorisées à assister aux comédies. Au Moyen-Âge, elles le pouvaient. Elles assistaient aux farces sur la scène publique. Mais après, à partir de la Renaissance, où il y a eu toutes sortes de traités de civilité qui ont défini les codes et les bons usages du rire et du sourire, ça s'adressait aux hommes, mais ça s'adressait en plus particulièrement encore aux femmes. Et là, effectivement, on considérait qu'elles ne devaient pas assister à une comédie parce que elles allaient être livrées à quelque chose qu'on assimilait à la débauche. Et encore une fois, je rappelle le lien que va faire l'Église entre la sexualité, donc le péché, la pornéia, donc la dépravation, et le rire, parce que dans les deux, que ce soit dans le rire ou de la sexualité, vous avez cette espèce d'abandon du corps et surtout la jouissance, parce que le rire est une jouissance. Donc on retrouve ces soubresauts du corps et de l'abdomen et ce non-contrôle qu'on retrouve dans la sexualité et dans le rire. Donc voilà pourquoi la prostituée rit.
Une programmation musicale tournée vers le rire, c'est Albin de la Simone, « Tu vas rire ».
Tu vas rire. Hier à la mairie, au temps de tout promettre, je ne t'ai pas menti, mais j'ai omis peut-être un détail et demi. Tu vas rire. J'ai lourd et long passé, les femmes et les voyages m'ont déjà épousé et jamais divorcé. Tu vas rire ou pas? Mais rassure-toi, tout va bien, ma chérie. Si ça comptait vraiment, t'emballe pas, tout va bien, ma chérie. Si c'était important, tu n'en saurais rien. Tu vas rire. Un jour à Miami, Madrid ou Ottawa, un enfant qui grandit se demandera qui. Et me retrouvera, tu vas rire. Mais je suis comme ça, je suis comme le ciel a voulu. Pour vivre en harmonie, au berceau, j'ai reçu le don de double vie. Tu vas rire, hein, ou pas? Mais rassure-toi, tout va bien, ma chérie. Si ça comptait vraiment, t'en mal pas, tout va bien, ma chérie. Si c'était important, voyons, t'en mal pas. Si ça comptait vraiment, vraiment, tu n'en saurais rien. Hier à la mairie, au temps de tout promettre, je ne t'ai pas menti, peut-être.
Olivia Gazalet, on parle du rire avec vous sous le prisme du genre. Vous parliez tout à l'heure de taverne, de cabaret, où il était bon d'y montrer sa virilité à coup de transgression verbale. Il y a un lien à faire entre rire et alcool.
L'alcool désinhibe. Donc, nécessairement, ça permet peut-être déjà pour la personne qui produit le contenu humoristique, qui émet une blague, il y a quelque chose dans le cerveau qui nous permet, qui nous autorise peut-être des trivialités que à l'état sobre on ne s'autorise pas. Et puis dans la réaction, donc dans l'hilarité, effectivement, on sait que l'alcool va provoquer, mais pas seulement l'alcool, aussi le cannabis a cet effet-là de désinhiber aussi le rieur ou la rieuse, c'est-à-dire qu'on va tout à coup, on peut avoir une sorte de fou rire qui ne s'arrête pas, parce que là aussi les digues sont un petit peu rompues sous l'effet de l'alcool ou du psychotrope.
Et le rire invite au rire, en fait.
Oui, le rire entraîne le rire. Le rire, c'est quelque chose de très contagieux. On a beaucoup de mal à stopper un fou rire. Et vous aurez remarqué aussi qu'on peut avoir des fous rires dans des occasions extrêmement tristes, voire tragiques.
Oui. Par exemple, les enterrements.
Par exemple, les enterrements oui. sont des occasions. Alors justement, parce que la pression se relâche, mais aussi la messe. Moi, oui. Enfin, je sais que
j'ai des souvenirs visiblement.
des souvenirs. Pour ne rien vous cacher, puisque on est en Suisse. Moi, j'étais à l'école en Suisse et j'étais chez les bonnes sœurs et je me souviens. Que oui, j'étais au pensionnat Valmont.
À Lausanne, très bien.
Oui, à Lausanne. Et je crois que les plus grands fous rires que j'ai eus dans ma jeunesse, je les ai eus dans la chapelle du pensionnat Valmont. J'espère que les bonnes sœurs ne m'écoutent pas. Mais effectivement, parce que justement, c'était l'endroit où on était tenu de garder notre sérieux et même de plonger dans la gravité, dans la solennité. Et donc, c'est l'exact antipode du rire. Et précisément cet effort qui nous était demandé, bon, pour peu qu'on voyait, je sais pas, une bonne sœur un peu trop recueillie ou un peu trop en extase ou quelque chose, et ou voilà, un de nos professeurs, voilà. Et là ça partait, et c'est une onde, le rire, c'est-à-dire que s'il y en a une qui commençait à rire, ouais. on voyait son dos qui commençait à trembloter quand on était derrière, et là c'était fini, on voyait, ouais, cette onde qui passait d'un rang à l'autre.
Il fallait pas se regarder.
Surtout pas se regarder, ouais. Et plus on se regardait, et puis plus, ouais, on essayait de s'arrêter, ouais. Il y a cette dynamique aussi de, justement, on est emporté par le rire, c'est les soubresauts de l'abdomen qu'on ne peut pas arrêter, parce que justement c'est hors de contrôle, et c'est pour ça que l'Église s'est toujours méfiée du rire, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, donc c'est satanique.
C'est interdit, c'est pour ça que ça nous fait rire. Et en même temps, on parlait des tavernes ou des bars, on les appelait les bistrots aujourd'hui, ouais. Sont des lieux où c'est presque une injonction, quoi. Celle du rire, du relâchement, de l'amusement. La question du rire et des lieux, elle est fascinante. Hein.
Ouais. Oui, absolument.
Donc là aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure des femmes qui ne pouvaient pas rire, quoi. Enfin, rire, c'était pour les prostituées, les sorcières. Et aujourd'hui, enfin, il s'est passé qu'on attend d'elles qu'elles rient. Les hommes sont, je caricature évidemment, les hommes sont drôles et les femmes rient à leurs blagues. C'est un peu la joute amoureuse qu'on a intégrée.
Alors oui, c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'on a tellement bien intériorisé cette différence des genres à l'égard du rire, que il y a un sociologue, un neuropsychiatre américain qui a fait une étude intéressante qui s'appelle Robert Provin, et qui a fait une étude intéressante. Il a analysé des annonces matrimoniales à l'époque où il n'y avait pas encore les applications sur notre portable, les portables n'existaient même pas, donc voilà. Il a étudié des annonces matrimoniales et il a remarqué que les hommes demandaient souvent une femme qui ait le sens de l'humour, mais dans le sens qu'elle allait rire à leurs blagues. En revanche, ils demandaient pas qu'une femme soit drôle. Et les femmes, elles, recherchaient un partenaire qui les fasse rire. Ouais. Donc, vous voyez bien qu'on a ce partage ancestral, ce partage sexué du rire qui produit encore des effets discriminants encore aujourd'hui, même inconsciemment.
Parce qu'on dit des femmes, femmes qui rient à moitié dans son lit, mais on dit pas homme qui rit à moitié dans son lit.
Maintenant, mais j'espère que ça change, parce que justement maintenant que les femmes ont prouvé à quel point elles pouvaient être hilarantes,
bien sûr.
Donc elles, voilà, donc
Mais dans la joute, dans la construction de nos joutes, enfin c'est intéressant de d'analyser d'où on vient et oui. Quel script on intègre et à travers aussi celui de la séduction. Enfin moi je m'amuse beaucoup quand je suis au bistrot, puis il y a un date Tinder à côté, on les repère en deux secondes. C'est quand la femme elle rit très très fort, beaucoup trop fort par rapport au niveau d'humour de son interlocuteur.
Ah mais c'est ça.
Ouais, et là on se dit là elle drague.
Elle drague. Oui, mais en même temps, ça va lui être très reproché. Hein, parce que les rires qui sont trop sonores, justement, ils ont une connotation virile. Oui. Puisque la femme est quand même tenue à occuper moins de place dans l'espace public. Aussi bien sur le plan de l'espace, par exemple, on voit que j'ai l'air d'aller loin, mais c'est exactement la même chose. Le fait d'avoir des terrains de sport, les garçons ont des terrains de foot, ont des terrains de sport, ont des skateparks, etc. Donc, ils occupent plus de place dans l'espace public depuis. Et donc c'est pareil, la femme qui est trop sonore, qui attire trop l'attention, bien il y a quelque chose de dérangeant. Et regardez dans la dernière campagne américaine présidentielle, le rire de Kamala Harris était un vrai sujet pour Trump. Il a dit plusieurs fois, écoutez-la rire, c'est une dingue, c'est une folle. Bon, avec la mesure qu'on lui connaît et la délicatesse qu'on lui connaît aussi. Et donc là, il avait dit laughing Kamala. Elle rit comme une hyène, comme une ânesse. Encore une fois, les connotations animales pour le rire de la femme. Alors que lui passe son temps dans ses meetings à faire des blagues. Mmh. C'est-à-dire que c'est un showman. Il sait faire que ça d'ailleurs. Hein. Enfin, il lance des blagues qui sont en général des blagues très sarcastiques d'ailleurs. Mais le rire de Kamala, ça ne passe pas du tout.
À l'époque, il ne fallait pas rire, il fallait sourire. Aujourd'hui, il faut rire, mais pas trop fort, si je vous comprends bien. Pas trop perçant, pas trop grossier.
Oui, et puis avoir un rire qui soit tenu, pas un rire gras. Vous avez aussi des personnalités. Moi, une personnalité que j'aime beaucoup à la radio, Juliette Arnault, je crois que vous la connaissez aussi.
Oui,
très bien.
De France Inter et maintenant sur Radio Nova. Oui.
Voilà. Alors, elle a un rire très caractéristique, très sympathique, que je trouve moi très sympathique.
Très sonore,
mais,
effectivement.
Voilà. Elle dit dans les interviews que ce rire lui est reproché parce qu'il n'est pas féminin. Oui. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rire féminin, ça petit rire comme ça, bouche close. Elle rit la bouche ouverte et elle a une production sonore assez importante. Donc c'est trop viril, ça ne fait pas fille, ça la déféminise. Donc elle s'en fout royalement elle, mais en fait c'est ce qui est dit d'elle.
On aime s'amuser, enfin ses camarades aimaient s'amuser et ça s'amuse certainement encore de son rire, et en même temps si elle ne riait pas, personne ne riait aux blagues des humoristes mâles. Donc il fallait quand
voilà.
Même. Donc c'est toujours tout le paradoxe en fait, évidemment, et les injonctions faites aux femmes. Olivia oui. Gazelle, restez avec nous, on va parler du mécanisme des blagues sexistes, ce sera après Lola Young, Messi.
Question genre.
En nouvelle diffusion. You know I'm impatient. So why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like one second? Nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me. I
just to help you sleep. Then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say.
Question genre avec la philosophe Olivia Gazalet qui signe Le paradoxe du rire. Et si ça n'était pas toujours drôle, aux éditions Segers. On va parler du mécanisme des blagues sexistes. Mais d'abord, concentrons-nous sur la matière des blagues sexistes. L'objet, le sujet, les femmes. mais leur apparence, surtout Olivia Gazalet, on se moque de leur poids, par exemple.
Oui, ce qu'on peut remarquer dans l'humour sexiste, c'est qu'effectivement, il se focalise essentiellement sur le, enfin, pas essentiellement. Il y a la bêtise, qui est un grand sujet, la bêtise des femmes, leur infériorité naturelle et congénitale, qui fait qu'elles ne savent pas conduire, elles ne savent pas réfléchir, elles ne savent pas changer une ampoule. Enfin, tout ça dans les représentations masculines, évidemment. Hein. Je le dis pas, oui. Pas au premier degré.
Pour les gens qui étaient en train d'écrire un mail déjà à l'émission.
voilà, pas dire ça. Qui n'auraient pas suivi le début. Et donc le deuxième trait, donc elles sont bêtes, elles sont inférieures, mais surtout ça se focalise beaucoup sur leur physique et plus spécifiquement sur leur potentiel érotique, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont des proies potentielles ou pas, des cibles potentielles du désir masculin ou pas. Et on remarque ça. Bon, alors le but évidemment c'est la disqualification, c'est-à-dire que quand on ramène une femme à ses attributs érotiques, ça disqualifie ses compétences intellectuelles. Typiquement, quand un patron, par exemple, fait une blague sur la tenue ou sur la poitrine d'une de ses employées, c'est une manière de disqualifier son propos. Donc, c'est évidemment très retors parce que justement, c'est sous couvert de la blague. Et vous avez en France, par exemple, vous remarquerez, on s'est beaucoup moqué de l'âge de Brigitte Macron, donc potentiel érotique. On s'est beaucoup le look un peu androgyne de Angela Merkel, c'était aussi un sujet, son poids, Cécile Duflot, c'était sa robe, et donc à chaque fois c'est pour rappeler que finalement les femmes, quand elles sont dans l'espace public, bon, il faudrait bien qu'elles c'est une manière de leur dire bon, t'aurais pu rester chez toi aussi. Voilà.
Ou on se moque aussi de leur morphologie. Voilà. On pense à Amélie Mauresmo, dont on s'est beaucoup moqué, c'était de la lesbophobie.
Exactement.
Aussi très très
exactement
clairement.
Oui.
Pourquoi les blagues sexistes sont toujours populaires? C'est cette question de disqualification dont vous parlez?
Alors, elles sont populaires parce que il y a dans le comique, il y a un phénomène de d'inclusion-exclusion. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une blague sexiste entre hommes, il y a un lien de connivence qui va s'établir entre ces hommes, donc quelque chose de très inclusif. Ah, on rit des mêmes choses, donc on est solidaire, on est ensemble, on est copains, on est frères, comme maintenant il y a la bro culture, donc brother, mon frère, donc on rit ensemble, donc c'est inclusif, mais c'est exclusif parce que c'est les personnes dont on rit qui sont donc exclues de ce rire. Et ce qu'il faut remarquer dans ce type de comique, que moi j'appelle pas humour, hein, mais bon, on pourra revenir sur la différence tout à l'heure, mais dans ces rires qui sont des rires de mépris, de dégradation, voire de haine, on parle du rire sexiste, mais on peut aussi parler du rire raciste, du rire homophobe, du rire transphobe, du rire grossophobe. Donc à chaque fois, il s'agit de stigmatiser une certaine catégorie de population qui est déjà par ailleurs stigmatisé dans le champ social, et ça contribue, le vice, l'effet pervers, si vous voulez, c'est que ça contribue à consolider les stéréotypes, qu'ils soient raciaux ou sexistes, à consolider et à, d'une certaine manière, légitimer les discriminations dont ces personnes sont victimes, parce que à force d'entendre, par exemple, des blagues, je vais prendre un exemple tout bête,
en fait,
les blagues sur les blondes. On en entend tout le temps. Donc, s'il y a vraiment une catégorie de femmes qui est encore plus bête que la femme normale, c'est la blonde. Donc, la blonde qui passe son temps, comme c'est bien connu, à se maquiller, à se pomponner et qui sait pas conduire sans emboutir sa voiture sur un poteau. Bon, la blonde, la cruche, eh bien, on a remarqué que sur le marché du travail, les blondes sont discriminées par rapport aux brunes pour le même au même niveau d'études et au même niveau d'expérience. Or, les clichés sur les blondes ne sont propagés que par les blagues. Jamais personne de sérieux dans une conversation va vous dire « Oui, quand même, on a remarqué que les blondes, elles étaient quand même moins futées que les brunes. » Non, ça n'existe pas. Ouais. C'est que dans les blagues. Donc, on voit que quand on dit « Ah, c'est que de la blague »,
ben, en fait,
c'est hautement significatif et c'est hautement préjudiciable. Parce que c'est ça toute la difficulté de ce sujet, c'est que quand on dit « Ouais, est-ce qu'on peut rire de tout ?» Moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais qu'il y a une façon de le faire. Mais il y a cette idée que, en fait, à partir de quel moment une blague peut causer du tort à sa cible? Donc, est-ce qu'il y a un préjudice réel, un préjudice concret? On le voit pour les blagues, c'est concret. Pour les blagues aussi racistes, xénophobes ou islamophobes, eh bien, concrètement, ça va banaliser les discriminations et au final, ça produit des effets dans le réel parce que on va, à force d'entendre des blagues sur les noirs qui sont malhonnêtes ou qui sont pas fiables ou qui sont paresseux, bah, on va avoir moins tendance à leur octroyer un prêt bancaire, à les embaucher, à leur louer un appartement. Bon, et identique pour les femmes. Cette espèce de présomption d'illégitimité professionnelle, par exemple, elle va être renforcée par les blagues à la machine à café.
C'est pour ça que vous dites que le sexisme doit être pensé comme un continuum.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une liaison à faire entre la blague sexiste, qui peut paraître anodine, la blague sexiste, la consolidation des préjugés, la légitimation des discriminations, et j'irais jusqu'à dire la culture du viol. Parce que quand vous avez des blagues qui portent sans arrêt sur je vais rester polie ce matin, mais enfin qui sont sans arrêt en train de parler de sexe et de d'hommes en train de s'emparer, toutes les blagues à base de baiser, niquer, tringler, etc. Et toutes les blagues qui présentent les femmes comme des proies potentielles du désir masculin, eh bien, à force de banaliser ce discours sur la violence sexuelle, en réalité, eh bien, on la légitime d'une certaine manière.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y a une différence à faire entre humour et sarcasme.
Oui, absolument. Mais ça, c'est fondamental parce que moi, je pense vraiment qu'on peut rire de tout et qu'il faut rire de tout, y compris du désespoir, de la misère, de la mort, du cancer, de tout ce que vous voulez. Il faut en rire, mais il y a une façon d'en rire et c'est ce que moi, la manière... Enfin, je pense qu'il y a un art de l'humour. On peut rire de tout à condition qu'on sache le faire et que l'humour est un art. Et qu'est-ce qui distingue l'art de l'humour du sarcasme? Je dis pas que de temps en temps, il faut pas être sarcastique, hein, mais ce sera pas de l'humour. Ce qui les différencie, si vous voulez, c'est que dans l'humour, vous avez une intention qui est purement ludique. L'humour, c'est vraiment la rupture avec l'esprit de sérieux. Comme disent les enfants, c'est pour de faux. Donc, je t'attaque pas pour de vrai, je t'attaque pour de faux. Alors que dans le sarcasme, il y a une dimension polémique et on est en plein dans la dénonciation sérieuse. Quand Trump se moque du rire de Kamala, il le fait d'une manière sarcastique, c'est-à-dire que il veut vraiment viser la cible et faire du mal à la cible. Et c'est ça la différence, c'est que quand vous faites un sarcasme sur quelqu'un, vous visez à susciter chez l'auditeur un sentiment de rejet, de mépris, voire de haine. Et donc c'est ça qui distingue l'humour du sarcasme.
Et de cette humiliation, on attend quand même une réponse, celle du rire. Et si une femme ne rit pas à une blague sexiste, on pourrait le lui dire, c'est quelque chose qu'on entend souvent, « Ah, c'est bon, c'est une blague, tu peux rigoler quand même ».
Ben exactement, t'as pas d'humour.
T'as pas d'humour.
Et je peux vous raconter une petite anecdote.
Bien sûr, j'adore les anecdotes.
Bon, ben en fait, je pense que c'est ce jour-là, et pourtant j'étais bien jeune, que je me suis dit c'est vraiment un sujet. Et un jour, je m'y attaquerai. J'ai mis plus de 40 ans à m'y mettre, mais en fait, je devais être en classe de terminale. Et puis, je reviens des vacances de Noël et effectivement, j'avais peut-être un peu forcé sur le chocolat. Et je rentre dans la classe et là, je passe devant la grappe de garçons menés par leur leader en chef, le plus beau, évidemment, et le plus grande gueule et le plus drôle. Parce qu'on n'est pas leader pour rien. Il était drôle. Et donc, moi, souvent, il me faisait rire, d'ailleurs. Mais ce jour-là, je passe devant lui et il me dit, « Dis donc, elle t'a bien nourri, mamie. On dirait que vous êtes deux dans ton jean. » Et là, tous les garçons qui éclatent de rire et qui, évidemment, regardent ce qu'il fallait regarder, c'est-à-dire mon postérieur grossit. Et moi, humiliation absolue, donc larmes aux yeux, et je me retourne vers eux, je leur dis « mais c'est vraiment pas drôle ». Et ils me répondent, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « oh ça va, t'as pas d'humour, mais c'était une blague, t'as pas d'humour ». Et moi, je me suis retrouvée complètement déconcertée. Et donc, quand j'ai entamé ce livre bien des dizaines d'années après, je me suis dit, en fait, je voudrais pouvoir donner des armes aux gens à qui ça arrive de recevoir une blague comme ça, qui les humilie, qui les ridiculise, qui les anéantit parfois, de leur donner des armes pour répondre à ce petit coq qui m'avait humiliée, leur répondre « mais c'était pas de l'humour en fait, c'était du sarcasme. Et je suis pas obligée de rire à tes sarcasmes. Et j'ai de l'humour, oui j'ai de l'humour. Seulement, c'est toi qui ne sais pas ce que c'est que l'humour, parce que ça n'en était pas. » Voilà.
Merci, comme ça on a pris des notes pour la prochaine fois. Comment vous expliquez qu'une même blague, selon qui l'a dit, elle nous fait marrer et d'autres vraiment pas du tout?
Oui, bah alors ça c'est une question délicate, c'est une des questions que j'ai abordées dans mon livre parce que j'ai parlé d'un pacte humoristique parce que l'humour c'est bien beau de dire il y a un art de l'humour, mais en fait il répond à des critères. Donc le non sérieux, on l'a vu, la volonté de ne pas blesser, la mise à distance, il faut qu'il y ait de l'innocuité. Et effectivement, pour que cette innocuité soit garantie, ça dépend de qui fait la blague. À qui, donc qui est la cible, dans quel contexte, et est-ce qu'il y a un rapport de pouvoir entre tous ces gens-là? Parce qu'effectivement, une bande de garçons contre une fille seule, c'est un rapport de pouvoir. Un professeur qui fait une blague à un élève, il y a un rapport de pouvoir. Donc là, on n'est pas dans l'humour, on ne peut pas être dans l'humour. L'humour, pour qu'il y ait de l'humour, il faut que je puisse répondre, il faut qu'il y ait de la réciprocité, et il faut qu'on soit pas dans une situation où on est victime d'une blague qui nous tombe dessus, qui nous dégrade, et à laquelle on n'a pas les moyens de répondre pour des raisons raisons de statut ou de hiérarchie ou voilà. Et donc typiquement en réunion une blague sexiste, à aucun moment ça ne peut être de l'humour. En revanche, la même blague, la blague sur les 2 kilos de trop, qui m'est envoyée par une bande de garçons qui se marrent à mes dépens, si c'était ma meilleure amie qui m'avait dit, dis donc, t'aurais pas un peu forci sur le chocolat, et que j'aurais pu lui dire, oh ouais, bah tu t'es vu, toi. Là, on est dans l'humour, parce qu'on est dans la réciprocité, et on est dans le non-offensif. Elle ne dit pas ça pour m'humilier, elle dit ça pour me taquiner. C'est pas la même chose. Et donc, surtout, moi, je voulais absolument pas qu'on tombe, qu'on ait l'impression que mon livre censure le rire, et que il faudrait plus rien dire sous... Parce que c'est ça, en fait, ce que j'ai appelé le paradoxe du rire, c'est que, justement, pour déclencher le rire, il faut chatouiller, il faut heurter, il faut aller un peu trop loin, il faut de la transgression, il faut de la subversion, il faut quelque chose qui heurte. Donc, si on se prive de ça, ben on ne rit plus. Donc, comment fait-on pour que le rire soit à la fois inconvenant, mais pas blessant, offensif, tout en étant bienveillant. Enfin, c'est toute cette problématique qui est très complexe, que j'ai appelé le paradoxe du rire.
Lui, il nous fait toujours rire. Philippe Catherine, la banane.
Non, je ne veux plus jamais travailler. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi.
Olivia Gazalet, dans votre livre Le paradoxe du rire, vous racontez qu'on a longtemps pensé que les femmes n'avaient pas l'aptitude de faire rire. Quand est-ce que les femmes ont commencé à faire rire publiquement ?
Publiquement, ça a pris du temps, hein. Mais on va dire que fin du 19e siècle, elles vont commencer au café-concert. Et donc là, on va avoir, on a notamment une Jeanne Bloch, qui est dite la petite boulotte de l'Alcazar, qui était toute petite, toute ronde, et qui disait d'elle, bon, je suis pas comme tout le monde, je fais rien comme tout le monde, moi j'ai grandi en largeur. Et puis vous avez aussi Yvette Guibert, cette espèce de longue femme, très androgyne pour le coup, avec une poitrine très plate, et une gouaille et une voix assez caractéristique, assez grave, enfin assez virile, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces femmes au café-concert, donc elles ont commencé à attirer beaucoup de monde, à faire rire. Enfin, c'est des chansonnières comiques, en fait. C'est des chansons comiques. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que justement, ce sont des femmes qui ne sont pas considérées, selon les standards usuels, comme féminines. Donc en fait, elles sont déjà perdues pour la féminité en quelque sorte, puisque dans ces clichés ces clichés de la construction des genres, on est soit drôle, soit féminine. On peut pas être les deux à la fois, parce que rire, c'est être drôle, c'est pervertir la féminité, comme on l'a dit. Mmh. Donc c'est intéressant de voir que les premières qui ont fait rire, elles se sont, elles étaient déjà un peu exclues de la féminité. C'est ce qui les autorisait à être drôles en fait. Dans l'espace public.
Et dès la moitié du XXe siècle, là, les professionnels du rire s'imposent peu à peu. Dans la francophonie, on peut en citer 3 millions. Chez nous, on avait la Zouk, dont on était très fiers. Sylvie Joly, Maria Pacôme. Après, les années 80, Balasco, Anémone, Lavanant.
Valérie Lemercier.
Romanoff aussi, Anne Romanoff.
Oui,
Michel Bernier. Après les années 90.
Muriel Robin.
Oui, Foresti aussi. Je sais pas si c'est...
Oui, Foresti, Florence Foresti. Ouais. Elle est un petit peu plus tard, mais...
Et puis les années 2000, Blanche Gardin. On peut en citer 3 millions. Mais il y a d'abord eu un humour féminin tourné vers l'autodérision. C'était un peu l'humour autorisé aussi. C'était pas que à travers le physique. Il fallait aussi accepter de rire de soi.
Oui, mais rire de soi, ça avait aussi une connotation d'émancipation. C'est-à-dire là, vraiment un rire de ce qu'on appelle en sociologie le retournement de stigmate. C'est-à-dire vous vous moquez de nous, vous vous moquez de notre corps, eh bien on va faire de ce corps et de ces injonctions à la féminité un sujet de rigolade. Et en fait, c'est de l'autodérision, c'est-à-dire que par la caricature de la féminité, elle donne à voir aussi que la féminité, c'est quelque chose d'artificiel, que c'est une parade à laquelle chacune est obligé de se soumettre, mais on en souffre. On souffre toutes, en fait, de devoir être belle, mince et éternellement jeune, parce qu'on n'y arrive pas. Mm-hmm. La nature fait que, malheureusement, voilà. On vieillit et parfois on prend des kilos. Donc, on est plus dans la norme de la désirabilité féminine. Et donc, ça, cette autodérision, ça nous a permis de mettre, en fait... De nous en émanciper en se moquant des injonctions à la féminité, on les met à distance. Donc c'est en ce sens qu'il y a un côté émancipateur dans ce rire.
Là où il y a un point de bascule, c'est quand les femmes, enfin les humoristes femmes, ont commencé à oser l'obscénité.
Ah oui, puis alors elles y vont très fort, hein, parce que oui, elles se sont emparées. Justement, s'il y avait une chose qu'on ne leur autorisait pas, c'était précisément le registre sexuel, puisqu'elle ne pouvait être que objet sexuel, donc elle ne pouvait pas être sujet d'une blague sexuelle, c'était pas possible. Et puis tout ce qu'on va appeler l'excrémentiel, c'est-à-dire l'humour scatologique, parce que là, n'en parlons pas, pour une femme de s'abaisser à ça, c'est juste inimaginable. Et donc justement, pour elle, la transgression suprême, c'est de s'être emparée des sujets de la sexualité, et de l'excrémentiel. On l'avait vu dans une cérémonie des Césars où Marina Foïs avait fait tout son discours d'introduction avec une petite crotte de chien à la main qu'elle avait ramassée sur scène. Donc ça, c'était vraiment une transgression majeure. D'ailleurs, ça n'a pas du tout bien passé, cette cérémonie des Césars. Et la question sexuelle, je dirais qu'elles vont presque plus loin que les hommes. Dans ce registre-là, elles vont très loin.
Je pense à Blanche Gardin, évidemment, dans une robe de fissage bourgeoise qui parle de sodomie. Là, effectivement, ça devient terriblement transgressif.
Et de sel. Elle a raconté aussi beaucoup ses histoires chez le gastro-entérologue, l'analyse de ses selles, etc. Ouais. Laura Lone aussi, elle est très trash.
Constance,
effectivement. Il y en a Marina Rollman aussi. Je crois que c'est elle qui a fait un sketch sur la masturbation. Florence Foresti, dans son dernier spectacle Boys, 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 elle fait 10 minutes presque complètes sur la vulve. Vous voyez, elles se sont emparées de ça et elles s'autorisent à aller presque encore plus loin que les hommes, puisque aujourd'hui un homme qui ferait trop de blagues, justement, ça a un côté complètement démodé, dépassé. Enfin, c'est depuis MeToo, les hommes font quand même un peu attention à ce qu'ils disent, fort heureusement. Et donc, ce sont les femmes qui se sont emparées du sujet, et encore une fois avec beaucoup d'autodérision. Et c'est ça qui fait aussi. Tout à l'heure, j'ai fait la distinction entre humour et sarcasme, j'ai oublié une chose essentielle, c'est que dans l'humour, il y a une composante, une dimension d'autodérision. Et c'est ça qui nous autorise aussi à nous moquer d'autrui, c'est qu'on s'autorise à se moquer, on se moque aussi de soi-même. Et donc, forcément, on peut aller beaucoup plus loin dans l'attaque quand on s'attaque soi-même aussi. Voilà, c'est important aussi de dire qu'elles font preuve de... Une Blanche Gardin, par exemple, pratiquement tous ses spectacles, elle se moque d'elle-même.
Ouais.
Et en se moquant d'elle-même, eh bien, elle incorpore toutes les femmes qui se reconnaissent justement dans son impossibilité à atteindre les standards de la féminité éternelle.
Il y a une humoriste suisse à laquelle je pense là tout de suite. C'est Rebecca Balestra. Elle vient d'arriver sur France Inter et sa marque de fabrique, c'est de se foutre la tête dans le gâteau, de se balancer de la farine, de s'asperger de lait. Elle fait ce qu'on n'avait jamais vu en fait.
Oui, la clownerie en fait.
Elle se salit, elle se montre sous son pire aspect en gueulant littéralement, et ça fait rire très très fort, quoi. Et ça fonctionne. Et je me disais, parce que moi je suis assez cliente de ce genre d'humour-là aussi, c'est il y a 10 ans jamais elle aurait été engagée pour sur France Inter pour ce genre d'humour.
Bien sûr, bah en fait là on passe dans un type d'humour burlesque, on va dire, ou clownesque, les pitreries.
Oui.
Et effectivement, c'est la transgression suprême, c'est quand une femme justement s'autorise à se dénaturer, à se salir, à salir sa bouche avec des grossièretés.
Oui.
Et là, effectivement, ce qui nous fait rire, c'est que c'est vraiment la transgression des transgressions.
Oui.
Et donc, comme aujourd'hui, on a le droit et qu'il y a une espèce de revanche qu'on prend sur tous ces siècles où non seulement on ne pouvait pas en rire, mais on ne pouvait pas faire rire avec ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, bah, allons-y jusqu'au bout, on va dire.
J'aimerais que, c'est déjà malheureusement bientôt la fin de cette émission.
Ah déjà, ouais, ça passe vite.
J'aurais aimé qu'on parle de l'humour queer, il y a tellement de choses à dire, mais là en ce moment, là, il y a quand même une affaire en France qui secoue le monde humoristique, c'est Merwan Benzalar qui est un humoriste qui est allé faire une chronique sur France 5 avec un bonnet acheté chez Zara, hein. Et comme il est arabe et qu'il a une barbe, on a jugé que c'était un dangereux islamiste, pas un humoriste. Il a été viré après une chronique avec intervention de Rachida Dati, s'il vous plaît. Et en gros, Yann Marguet, autre humoriste suisse qu'on aime beaucoup ici, en gros, Yann Marguet avec un bonnet et une barbe sur Quotidien, c'est hipster, mais un arabe avec un bonnet et une barbe, c'est un terroriste. Je voulais vous faire réagir là-dessus.
Qu'est-ce que je peux vous dire à part que en France, il y a une. Là, on n'est plus du tout dans le registre de l'humour, mais dans le registre le plus sérieux du monde. Il y a une islamophobie qui est là et qui est très présente sur les plateaux. On a beaucoup parlé d'antisémitisme ces derniers temps, mais il faudrait aussi rappeler que l'islamophobie est une réalité et que là, on la voit s'exprimer sur des prétextes les plus fallacieux et farfelus. Donc, en fait, maintenant, on a des plateaux télé, par exemple, sur CNews, où on va effectivement faire des gorges chaudes sur une affaire comme ça. Et puis, maintenant, ils deviennent experts en barbe. Non, alors, taillé comme ça, c'est hipster, mais taillé comme ça, c'est islamiste. Le bonnet comme si, c'est comme ça, mais un centimètre plus bas, c'est islamiste. En fait, on arrive dans une espèce de non-sens. Ça remplit les plateaux télé, ça fait de l'audience. Bon, ça plaît à un certain public. Que vous dire sinon que tout ça m'attriste, me désole et surtout m'inquiète.
C'est dommage de terminer là-dessus, mais en même temps, j'avais vraiment envie de vous entendre.
C'est dommage, parce que
c'est vraiment
mais
l'actualité.
Là, si vous... Oui, mais malheureusement, en France, il y a de quoi s'inquiéter sur la montée de l'extrême droite, tout simplement, appelons-la par son nom, et donc de toutes ces théories un peu fumeuses, et tous les prétextes sont bons pour casser de l'arabe. Donc ouais. Voilà.
Et casser de l'humoriste arabe, c'est encore mieux, parce que c'est un humoriste,
évidemment.
Et il est dangereux
évidemment.
Par conséquence.
Évidemment.
Merci Olivia Gazal, et je rappelle la publication de votre livre, Le paradoxe du rire, et si ça n'était pas toujours drôle, aux éditions Segers. Merci infiniment. À bientôt.
Mais c'est moi qui vous remercie infiniment, et puis je dis bonjour à tous les Lausannois et Lausannoises.
Et les bonnes sœurs qui nous écoutent.
Ah oui, les bonnes sœurs.
Et on se quitte avec Sébastien Tellier, L'amour et la violence.
ce que tu penses. De mon adolescence, dis-moi ce que tu penses. Moi j'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses.
Les émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 2h.